Nous voici réunis pour cette seconde catéchèse. La semaine dernière, je me suis efforcé d'introduire le mystère de la foi en disant qu'il faut tout tenir et s'efforcer d'avoir et de cultiver une vision d'ensemble de tous les mystères de la foi. Je vous disais, il y a le mystère de Dieu tel qu'il est en lui-même. Il y a après le mystère du Dieu créateur, le temps de la création. Puis, il y a ce qu'on appelle l'économie originelle, c'est-à-dire Adam et Ève qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, tels qu'ils sont avant qu'il n'y ait le péché. Puis, une autre économie, l'économie de la rédemption, toute cette pédagogie que Dieu va mettre en place dans le temps pour venir nous sauver du péché. Alors, l'économie, on pourrait dire, de l'Alliance, celle qui va être faite avec Noé, l'économie de l'Alliance qui va être faite avec Moïse, le don de la loi, de la Terre Sainte, tout le temps des prophètes qui n'est là que pour rappeler l'exigence même de la loi, les endurcissements de cœur. On nous dit « ce peuple a la nuque raide », nous on pourrait dire dans notre culture « la tête dure », dure à écouter les appels de Dieu, jusqu'à ce qu'arrive celui qui est annoncé dès la Genèse, qui est annoncé par rapport au mystère de la femme dans votre descendance. Une parmi vous écrasera la tête du serpent, c'est l'image de la bienheureuse Vierge Marie, la nouvelle Ève qui met au monde le nouvel Adam qui vient nous sauver. Ce n'est pas, comment dire, un Messie parmi tant d'autres, c'est le Messie en tant que Dieu qui vient lui-même à notre secours. Donc il y a tout ce temps de l'incarnation, pourquoi le Christ s'est incarné pour venir nous sauver, il meurt sur la croix, il ressuscite. Il a instauré l'Église et avec Pentecôte, c'est le temps de l'Église dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas fini, puisque nous sommes tous dirigés vers le retour du Christ. Tous ces mystères, on le dit en théologie, c'est le mouvement traditionnel, Reditus Exitus, enfin, on sort de Dieu et on retourne à Dieu. Je viens de Dieu et tout ce que je fais ici-bas sur la terre, c'est pour revenir à Dieu. C'est ce que le Seigneur dit bien, il faut revenir à moi de tout votre cœur. Voilà. La vie chrétienne, c'est le retour vers le Seigneur. Mais dans la vie chrétienne, en 2021, nous sommes orientés vers le retour du Christ. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Si j'ai commencé par le mystère du temps, ce n'est pas une toccade de l'abbé Martin, c'est juste que c'est ainsi que commencent les Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est bien pour montrer que celui qu'on va appeler dans les Saintes Écritures l'Éternel, pour désigner Dieu, est en dehors du temps. Si Dieu est en dehors du temps, c'est parce qu'il en est le maître. Alors, en grec, parce que beaucoup de choses dans le Nouveau Testament dépendent du grec, il y a trois façons d'envisager le temps. Il y a le temps qu'on appelle chronos. Le temps chronologique. C'est un temps qu'on pourrait dire quantitatif, celui des horloges, on va apprendre à le mesurer, à l'école vous avez appris même à convertir les heures en minutes, les minutes en secondes, etc. Ce temps-là est linéaire. Je suis né en telle année, je ne connais pas encore la date de ma mort, je ne peux pas vous le donner un exemple, mais enfin, je suis là pour un temps, il y a cette marche du temps. Les anniversaires sont autant d'occasion de se rappeler bien que nous prenons de l'âge. Donc il y a ce temps ainsi chronologique. Eh bien, dans la façon dont Dieu se révèle, il y a le commencement, mais il y a aussi la fin. Et Dieu, quand il se présente, il dit bien qu'il est sans commencement ni fin. Ou alors, si on prend avec l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. » Mais n'oublions jamais que Dieu est en dehors de tout cela. Donc il y a d'abord le temps chronologique. Ensuite, il y a un autre temps en grec qu'on appelle le kairos. Alors ça, c'est très intéressant et c'est même très important. C'est un temps, autant le temps chronos, on a dit, il était quantitatif, je peux le mesurer, c'est ce temps qui passe. Le kairos est un temps plus métaphysique. Je prends des exemples. Quand Aristote, un philosophe, dans son éthique, va développer justement une morale de l'agir, il faut agir, il faut poser des actes, et c'est vrai que pour être sauvé, il faut aussi poser des actes méritoires en vue de la vie éternelle. On développera tout ça en son temps. Aristote nous dit, il ne faut pas rater le kairos, c'est-à-dire le moment opportun. C'est l'occasion à saisir. Je prends des exemples très simples. Ce livre posé sur la table, je donne un coup de coude malencontreux. Il y a un temps favorable, une occasion à saisir pour que je puisse le rattraper. Ça, c'est quelque chose que l'on expérimente. Hein, il est là, oups, je réussis à le rattraper. Il y a une occasion à saisir. Aristote nous dit, bien, dans la vie vertueuse, plus je vais prendre l'habitude de faire le bien, ben, plus je vais être aussi attentif à discerner quand est le moment opportun pour bien agir. D'autres exemples. La mère de famille qui reçoit je ne sais quelle confidence d'un de ses fils et qui va devoir en parler à son époux, dit à son fils, j'en parlerai à ton père au bon moment. Ben, le bon moment, c'est parce qu'il faut sentir. Il y a des choses qu'il faut sentir, le bon moment. Je dis ça parce que le Kairos est un temps important dans l'histoire du salut. Hein, il y a cette citation que reprend saint Paul, qui est originaire du prophète Esdras, qui nous dit, second épître aux Corinthiens, au chapitre 6, je crois, « Voici le temps favorable, Kairos, voici le jour du salut. » Ça veut dire que dans l'histoire linéaire de ce temps chronologique, qui du commencement nous conduit au retour du Christ, eh bien il y a aussi des moments opportuns, des occasions à saisir individuellement pour notre salut. Il y a des temps dans notre vie spirituelle, dans cette vie que nous avons avec Dieu, où il y aura à partir de ce moment-là un avant et un après. Je prends l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, issue d'une famille chrétienne, pratiquante, il faut tout préciser aujourd'hui. Sainte Thérèse a été baptisée, elle a une vie chrétienne. Mais pour elle, il y aura un avant et un après, sa guérison miraculeuse par Notre-Dame des Victoires, par exemple. Il y aura un avant et un après, nous dira-t-elle, de cette conversion qu'elle a vécue une nuit de Noël. Il y aura un avant, il y aura un après. Pour Saint Augustin, c'est pareil, pour Saint Paul aussi. Il y a un avant, Saint Paul, et puis il y a un après, sa conversion sur le chemin de Damas. Il y a un avant, il y a un après. Ce qui est vrai pour nous est vrai aussi du bon Dieu. Vous voyez, ce n'est pas immédiatement après qu'Adam et Ève ont péché que Dieu se dit « ça y est, c'est le temps favorable, maintenant je les sauve ». Non, il y a une pédagogie divine qui va se donner dans le temps. Hein, l'homme s'est éloigné et il va y avoir des moments, le moment de l'alliance avec Noé par exemple, il y a des moments comme ça, Dieu va se révéler dans le buisson à Moïse pour révéler son nom, il va donner la loi, hein, il va envoyer tel et tel prophète. Donc il y a vraiment des temps qui pour Dieu sont les temps opportuns. Voici le temps favorable, qui pour nous sont des occasions à ne pas saisir, c'est le jour du salut. Ensuite il y a, donc ça c'est le kairos, et la dernière forme de temps, c'est ce qu'on appelle en grec l'aïon, c'est la conception cyclique du temps. Et ça, nous le vivons au quotidien. Hein, le rythme, si vous voulez, entre le jour et la nuit, entre mon temps de sommeil et le temps où je suis éveillé, sont des choses qui reviennent constamment. Le temps des saisons est un temps cyclique, même si on dit aujourd'hui que les saisons sont un peu déréglées. Ça dépend à partir de combien de temps nous avons aussi des bulletins météorologiques sérieux, parce qu'on entend tellement de choses sur ces nouveaux dogmes aujourd'hui du temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérèglement, mais enfin, prenons les choses avec quand même beaucoup de prudence pour ne pas entrer comme ça dans ce nouveau paganisme. Donc du coup, il y a une conception aussi cyclique du temps qui se répète. La liturgie vit sous cette conception du temps. Elle nous propose toujours un cycle, année après année, où nous revivons chaque fois les mêmes mystères. Hein, nous allons arriver aux fêtes de la Toussaint, puis ensuite on va rentrer après la fête du Christ roi dans le temps de l'Avent. On va recommencer à attendre le Messie comme le peuple de l'Ancienne Alliance attendait la venue du Messie. Puis à Noël, on va vivre, ça ne sera pas la première fois, le temps de l'Incarnation, hein, puis ensuite on va avoir le temps du Carême, le temps où on va méditer, bien sûr, la mort du Seigneur, sa passion, sa résurrection. Donc vous voyez, la liturgie, elle fonctionne ainsi par cycle. Tout ça pour dire que le mystère du temps, ben, il nous habite. Et il va habiter aussi le bon Dieu qui veut venir à notre secours. Je vous disais dans cette citation de saint Paul, il y a « voici le temps favorable, donc l'occasion à saisir, et le jour ». Le jour du salut. Bien souvent, dans les Saintes Écritures, on parle du jour du Seigneur. Et voyez que dans cette dimension du jour du Seigneur, ben, on est déjà dans une forme d'éternité. La liturgie, elle en parle en disant « les siècles des siècles ». Vous savez que chaque oraison se termine toujours, hein, « pour les siècles des siècles ». Mais les siècles des siècles, c'est bien l'image à la fois de cette marche dans le temps qui nous conduit vers la vie éternelle, cette éternité qui nous est à chacun promise. Donc du coup, le jour du salut, Hein, c'est quelque chose qui est comme en dehors du temps. Je prends plusieurs exemples. Abraham, qui est un patriarche, qui a donc un éclairage particulier pour voir un certain nombre de mystères de la foi. Hein, il a un charisme de prophétie, il voit, et il dira un jour, j'ai vu son jour se lever, en parlant du bon Dieu. Hein, et on dira, ben, qu'est-ce que c'est que ce jour qu'il a vu? Ben, il lui a été donné de voir mystérieusement, ben, comme la croix, la résurrection, le retour du Christ, il lui a été donné d'avoir cette lumière qui, à un moment donné, est venue éclairer son intelligence, j'ai vu son jour se lever. Au cœur de la prière que le Seigneur nous enseigne, le Pater, bien, il nous dit bien, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors bien sûr, il y a le sens littéral. On demande à Dieu de nous donner le pain nécessaire à la vie de notre corps. Il y a le sens spirituel, bien sûr, on demande également au bon Dieu de nous donner le pain nécessaire à la vie de notre âme, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Mais il y a aussi, donne-nous le pain de ce jour, c'est la nourriture nécessaire pour arriver dans la vie éternelle. Donc vous ferez attention en méditant les textes, les différentes écritures, et bien que quand on entend parler ainsi du jour du Seigneur, on est renvoyé bien à cette vie éternelle. C'est également ce que nous fait comprendre le Seigneur quand il va parler du septième jour, ce jour qui est le repos de Dieu. Dieu n'ayant pas de corps, il n'est pas physiquement fatigué. Il est là à l'arrêt pour nous montrer que eh bien, tout ce que nous avons à vivre, c'est pour ce septième jour, le jour du Seigneur, cette vie éternelle qui nous est promise. Donc il y a un temps chronologique, bien sûr, je vous ai dit, le Seigneur est né aux environs de l'an 0, il va y avoir la mort sur la croix, la résurrection en l'an, par exemple, aux alentours de l'an 33, la mort de l'apôtre Pierre en l'an 64, hein, et puis après ce grand temps de l'Église. Il y a toute une perspective qui nous est donnée. Il y a, donc du coup, dans ce jour du salut, il y a pour nous un kairos important, un temps opportun, qui a été suffisamment opportun pour qu'on remette, comme toutes nos pendules à l'heure. C'est celui de la naissance du Seigneur. Dans notre culture, on a appelé ça l'an zéro, il y a eu un avant, et il y a surtout un après. Vous voyez, c'est ça le temps opportun. C'est cet événement qui fait qu'il y a un avant et il y a un après. J'ai appris une telle nouvelle. Ben, il y avait le temps où je ne le savais pas, et puis maintenant il y a le temps où je le sais. Et puis parfois il faut vivre avec, ça dépend quelle est la nouvelle. La mauvaise nouvelle d'une maladie, celle d'un décès, ou telle et telle chose qui font qu'il y a un avant et il y a un après. Mais dans le bon Dieu, dans sa pédagogie, ben, il va marcher, il va fonctionner ainsi. S'il a choisi le temps en l'an 33 pour la mort du Christ, ben, ça appartient à l'économie divine. Vous voyez, Dieu n'a pas voulu tout d'abord nous sauver, il a voulu pédagogiquement dans le temps, ben, renouer cette relation d'amitié avec l'homme, petit à petit. Dieu est un pédagogue. Donc, il y a ce grand mystère du temps. Le livre de la Genèse continue en nous disant, bon, alors il y a la création du monde angélique, nous l'avons vu la semaine dernière, je ne vais pas y revenir, cette séparation de la lumière et des ténèbres, c'est-à-dire donc du coup des bons anges et de ceux qui sont des anges déchus, les démons. Et ensuite, on va continuer à nous parler de cette création matérielle du monde par degrés, parce que le sommet de la création, c'est la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ainsi que fonctionnent les Écritures. Il y a le commencement, et puis ensuite, il y a le monde qui est créé. Le monde est créé pour l'homme, que Dieu va placer dans le jardin d'Éden, un jardin qui symbolise déjà la vie éternelle. Eh bien, nous allons prendre maintenant, comme à rebours, ce récit de la Genèse, pour commencer par l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pour l'homme et la femme que Dieu a créé le monde matériel tel que nous le connaissons. Ce n'est pas pour les anges. Nous avons vu, les anges sont de purs esprits. Ils n'ont pas besoin d'un soleil, ils n'ont pas de lumière matérielle pour se situer dans l'espace. Ils ne sont pas fatigués, il n'y a pas besoin du repos de la nuit. Ils sont toujours éveillés, comme le Seigneur d'ailleurs. Quand on dit que le Seigneur est éternel, ça veut dire que le Seigneur il ne s'endort pas. Jamais il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël, dira le psaume. Le Seigneur est toujours éveillé. De telle sorte que lorsque l'on prie, on n'a pas à se dire « je vais casser les pieds au bon Dieu à le prier à 3h du matin ». Il est toujours là, toujours bien présent dans son œuvre de création. L'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le récit biblique nous dit qu'il y a d'abord eu la création d'Adam, puis ensuite la création de Ève. Mais ce n'est pas l'homme de sexe masculin qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas non plus seulement la femme qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homme et femme, il les créa. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement le sexe masculin ou le sexe féminin qui ressemblerait à Dieu, c'est dans cette complémentarité de l'homme et de la femme que nous ressemblons au bon Dieu. Ceux qui me connaissent savent que je plaisante souvent avec la logique féminine, qui est des fois une logique qui me dépasse, mais enfin je pense que c'est vrai aussi pour les femmes pour qui des fois la logique masculine est quelque chose qui peut les dépasser, mais ce sont des tout petites choses qui nous permettent de comprendre eh bien, que il y a une complémentarité qui fait qu'ainsi nous ressemblons à Dieu. Et les Saintes Écritures se jouent de ça. Enfin, se jouent, non pas pour se moquer de nous, hein, mais elles se jouent de ces deux choses. Pourquoi ? Parce que bien sûr, Dieu va apparaître comme le Père. Mais il y a bien des images dans lesquelles Dieu est comparé à une mère. La mère juive est une mère possessive, et on nous dit que Dieu a l'amour jaloux pour ses enfants. Hein, donc du coup, il y a un certain nombre d'images. Il y a une image, je ne me rappelle plus distinctement, ça me vient maintenant, l'image de la poule. De la poule qui rassemble ses petits. Ben, vous voyez, c'est une image assez féminine pour nous parler aussi du mystère de Dieu. Alors il est vrai que notre Seigneur Jésus le Christ, en s'incarnant, est devenu un homme de sexe masculin. Non pas parce qu'il s'est dit, je ne veux certainement pas devenir une bonne femme. Ce n'est absolument pas pour ça. Mais il a pris ça. C'est un élément de l'incarnation. Quand Dieu, comme ça, s'incarne, eh bien, il fait avec ce que nous sommes aussi. Mais vous voyez qu'il faut aussi éclairer l'image du nouvel Adam par celui de la nouvelle Ève, qui est la bienheureuse Vierge Marie. Dans ce récit de création, on nous dit donc qu'il y a Adam et que de Adam est tiré Ève. Mais on regarde que dans le temps de l'incarnation, c'est l'inverse qui se passe. Parce que c'est la nouvelle Ève qui va nous permettre de mettre au monde le nouvel Adam. Voyez comment les mystères s'éclairent les uns aux autres. Je ne dis pas que c'est par une définition de la parité qu'il faudrait qu'aujourd'hui on mette ça en place. Non, non, mais vous voyez, Adam permet à ce qu'il y ait Ève, mais ensuite pour venir nous sauver, c'est l'inverse. C'est de la nouvelle Ève qu'est tiré le nouvel Adam. De telle sorte aussi que nous entrevoyons là qu'il y a un mystère qui unit et le Christ et la bienheureuse Vierge Marie. Il y a le fils et la mère, ça nous dit vraiment quelque chose du lien, hein, qui unit un enfant à sa mère. Et puis, le Seigneur Jésus, plusieurs fois dans l'Évangile, quand il va parler, peut-être solennellement à sa mère, surtout dans l'Évangile selon saint Jean, il ne va pas l'appeler par son prénom, il ne va pas l'appeler mère, il va lui dire femme. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce patriarcat qui se met à appeler la femme femme, comme s'il ne connaissait pas son prénom, ou comme s'il ne voulait pas l'appeler mère. Mais non, ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Quand le Seigneur fait cela, c'est le nouvel Adam qui parle à la nouvelle Ève, à Cana, en Galilée. Quand la bienheureuse Vierge Marie a vu qu'il manquait de vin, elle se tourne vers son fils. Et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur comprend que la bienheureuse Vierge Marie attend quelque chose du Seigneur. Hein, qu'il change l'eau en vin pour que le vin ne manque pas à ses noces où la bienheureuse Vierge Marie a été invitée. Et parce qu'elle était invitée, on a invité son fils. Et parce que son fils est invité, il y avait les apôtres. Ah oui, parce que quand on invite la Vierge Marie, il y a toute la famille qui arrive. Et donc du coup, là, il lui dit, femme, mon heure n'est pas venue. Mon heure. Vous voyez bien qu'il y a une dimension du temps. L'heure du kairos, le temps opportun, c'est pas encore. Et pourtant, le Seigneur va s'exécuter, il va changer l'eau en vin. Ça sera le premier signe de la vie publique du Seigneur Jésus. Donc vous voyez là, c'est le nouvel Adam qui dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, ça sera celle de la croix. Ça sera l'heure où il ne sera plus question de changer de l'eau en vin, mais de changer du vin en son propre sang. Vous voyez comment les Saintes Écritures nous parlent hein, à travers ainsi les âges. De même, au pied de la croix. Au pied de la croix, lorsque le Seigneur crucifié eh bien, a à ses côtés et saint Jean et la bienheureuse Vierge Marie, il ne va pas dire « Mère, voici votre fils. Fils, voici votre mère. » Sous-entendu, saint Jean, veuillez vous occuper de ma chère mère. Non, c'est l'inverse qui se passe. Hein? Femme, voici votre fils. C'est nous qui avons été confiés à la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. À partir de ce jour, le disciple bien-aimé l'a pris chez lui, tout comme nous après. Le mystère du scandale de la croix, eh bien la bienheureuse Vierge Marie est devenue, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Non seulement parce qu'elle a donné le nouvel Adam, mais parce qu'en participant ainsi eh bien, à la rédemption de son fils, nous sommes ses enfants. Femme, voici votre fils. Et Ève, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la mère des vivants. Eh bien, de ces vivants qui vivront pour la vie éternelle en paradis. Vous voyez là aussi la dimension du temps. Mon heure n'est pas venue. C'est quelque chose de très important pour comprendre l'évangile selon saint Jean. Hein, il y a toujours avant l'heure, l'heure et après l'heure. Hein, avant l'heure, c'est avant le sacrifice de la croix. Et comment commence ce grand préambule qui nous conduit eh bien, à la passion du Seigneur? Quand l'heure fut venue d'aller vers le Père. Jésus, dans un repas, hein, prit le pain, le vin. Voilà. Là, l'heure est venue. Donc Dieu, eh bien, il se sert, pour nous, hein, du temps pour venir nous sauver. Dans ce que je dis là, cela veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir une dimension trop individualiste des choses. Bien sûr, j'existe seul, enfin pas seul, mais comment il faudrait dire, j'existe dans ma singularité. Mais le bon Dieu, il ne vient pas me sauver que moi dans ma singularité, il vient sauver l'ensemble du genre humain. Ce qui veut dire que dans la prière de l'Église, il y a vraiment une conception communautaire des choses. Je vous parlais de la communauté angélique, il y a la communauté humaine et au ciel, nous formerons une même société avec les anges. Ce qui veut dire aussi que Dieu peut du coup, dans sa pédagogie, eh bien, venir à notre secours. Que fait-il une fois que l'heure est passée, l'heure est venue? Eh bien, une fois que le Seigneur a offert sa vie sur le bois de la croix, on nous dit dans le credo, il est descendu aux enfers. Alors, il n'est pas descendu en enfer pour combattre le démon, ceci est renvoyé au dernier temps, puisque je vous avais dit, Dieu va se servir même de la désobéissance des anges en vue d'un bien plus grand, tout concourt au bien. Et donc du coup, donc ça c'est renvoyé au dernier temps. Quand le Seigneur descend aux enfers, c'est pour aller chercher les âmes des justes qui attendent eh bien, de la mort et de la résurrection du Seigneur que les portes du ciel soient à nouveau ouvertes. Ces portes que par le péché ont été fermées, hein, on nous dit dans le livre de la Genèse, on a placé un ange pour garder, on ne peut plus rentrer, bien voilà que ces portes sont à nouveau ouvertes. Le Seigneur va chercher les âmes des justes pour les faire entrer dans la vie éternelle. Dans ce jardin d'Éden où l'homme et la femme ont été créés, il va y avoir bien sûr la venue de ce serpent. C'est pourquoi la semaine dernière, j'ai posé, avec la tradition de saint Augustin, le monde angélique. Parce que sinon, on ne comprend pas comment le serpent a pu arriver. Pourquoi le serpent viendrait tenter l'homme et la femme? Ce qui veut dire que le péché qui va être celui de Ève et d'Adam, il faut le dire dans ce sens-là, puisque c'est d'abord Ève et puis ensuite Adam, elle va transmettre son péché à Adam, eh bien, est un péché qui a déjà été commis par le démon. Je vous avais dit, il y a une hiérarchie chez les anges. Lucifer, Lucifacere, l'ange faiseur de lumière, ben, il a donné, par sa désobéissance, l'exemple à un certain nombre d'anges, un contre-exemple, un mauvais exemple, et ceux-là se sont décidés à se mettre à sa suite, ce sont les démons. Donc là, il y a ce serpent qui vient pour tenter Adam et Ève. Mais Adam et Ève, dans l'économie originelle, hein, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. De telle sorte que le démon va se jouer de la vérité pour pouvoir parvenir à ses fins. Et on se souvient que dans l'Évangile, le Seigneur appelle le démon le père du mensonge. Et que pour bien mentir, on apprend de tout dans ce catéchisme, pour bien mentir, eh bien nous savons qu'il faut quand même qu'on s'approche le plus de la vérité. Hein, l'élève qui dirait à son professeur « j'avais fait mon exercice, mais des extraterrestres sont venus et ont volé mon cahier ben, ». Le mensonge est un peu gros, même si mon chien a mangé le cahier. Il faut trouver des choses qui s'apparentent le plus à la réalité. Et c'est ainsi que la tactique du démon va venir tenter Ève. Il y a dans ce jardin d'Éden une grande intimité avec Dieu. Adam et Ève connaissent Dieu et cette connaissance de Dieu qui vise l'intime même est manifestée par cette idée que Dieu descend dans le jardin à la rencontre d'Adam et Ève. Ça montre bien qu'il y a une vraie harmonie avec Dieu de telle sorte que Adam et Ève auraient pu être salués avec les mêmes termes qu'emploie l'archange Gabriel quand il vient visiter la Vierge Marie. Il lui dit, le Seigneur est avec vous. Mais mesurons ce que cela veut dire. Le Seigneur est avec vous, sous-entendu, pour la Vierge Marie, comme il n'a jamais été avec aucune autre créature. Hein, la bienheureuse Vierge Marie, son privilège de sa conception immaculée, c'est que elle est comme Ève au moment où elle a été créée. Elle ne connaît pas le mal. Elle n'a que l'idée du bien et elle ne pratiquera que le bien. Ben, Ève est créée ainsi, c'est pourquoi ce péché des origines est un péché extrêmement grave. Ce n'est pas, comment dire, une sottise de Ève qui n'a pas bien réfléchi à l'histoire du serpent. Non, elle y rentre de plein pied. Elle y rentre de plein pied. Ce démon va venir lui dire « Ah, ça c'est dommage, ça commence bien. Ah, vous ne pouvez pas manger des fruits des arbres. » Ce n'est pas la vérité. Dieu, en plaçant Adam et Ève dans le jardin, dans les limites d'un jardin, a placé au centre de ce jardin la loi. Cette loi qui est figurée par deux arbres, bien visibles au centre du jardin. L'arbre, nous dit saint Augustin, que l'on appellera bien sûr après le péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'avait pas son nom dès le début, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Ce sont deux arbres qui dominent cet Éden, pour toujours rappeler visuellement à Adam et Ève que s'ils sont dans le jardin et que si la dignité de en tant que créature de ce jardin, eh bien c'est d'être comme les maîtres du jardin, ils ne le sont pas véritablement. Dieu est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ce qui veut dire que Adam et Ève, ils savent qu'ils viennent de Dieu, ils se reçoivent de Dieu, ils connaissent Dieu, ils ont une mission, une responsabilité dans ce jardin, bien sûr. Mais il y a bien visible, placé au centre du jardin, ces deux arbres. C'est la loi. Et comme je vous dis, Dieu a placé aussi Adam et Ève dans les limites d'un jardin. Or, je vous ai dit il y a quelques instants, l'homme et la femme, le monde a été créé pour l'homme et la femme, pour le genre humain, mais toujours dans de certaines limites. Il ne faudrait pas qu'Adam et Ève se perdent. Et on voit ça aussi quand on élève des enfants. Quand on élève des enfants, ben, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des limites comme d'un jardin. Vous savez, quand on met des enfants pour jouer dans un parc, ben là on a bien l'image, si vous voulez, du jardin d'Éden, non pas qu'on est parqué, mais qu'il y a bien cette idée qu'il y a un endroit sécurisé où l'enfant va pouvoir jouer avec une surveillance d'un peu plus loin des parents qui ont aussi d'autres choses à faire. Pas toujours s'occuper de l'enfant. Et donc du coup, vous voyez, ça c'est déjà très important, Dieu a placé Adam et Ève dans les limites et il a placé au cœur de ce jardin la loi. Alors non pas une loi qui a besoin d'être matérialisée par un code de droit civil ou de je ne sais pas quoi, mais ils savent, en voyant ces arbres, qu'il y a la seigneurie de Dieu, qu'il y a Dieu au-dessus d'eux, un Dieu qui vient à leur rencontre hein, et qui a plaisir à venir discuter avec Adam et Ève. Donc déjà, il y a cela qui est très important, mais ça nous dit aussi quelque chose de la bienheureuse Vierge Marie, de cette intimité qu'elle peut avoir avec Dieu, puisqu'elle est sans péché. Et le péché est toujours ce qui nous éloigne et nous obscurcit de Dieu. D'où l'importance de cultiver l'état de grâce, la confession, qui non seulement nous permet de recevoir le pardon de nos péchés, mais qui nous donne aussi une grâce de persévérance pour, dans le temps, eh bien, tenir le bon combat, et être, pour reprendre la création du premier jour, la séparation de la lumière et des ténèbres, bien, il y a dans le Nouveau Testament, on nous dit, il faut que nous soyons des fils de la lumière, non pas des fils des ténèbres. Vous voyez comment ce premier jour est éclairé d'un jour nouveau, dans ce Nouveau Testament. Donc, il y a Adam et Ève qui connaissent bien Dieu, il y a la loi, ce qui veut dire que Ève sait très bien ce qu'elle va faire, et que va-t-elle répondre ? Ah, vous ne pouvez pas manger des arbres du jardin. Ève, immédiatement, répète la loi. Non, Dieu nous a dit que nous pouvons manger des arbres, des fruits du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que Ève, elle connaît la loi, elle sait ce dont il s'agit. Et voilà que ce démon va venir lui vanter la saveur d'une nouvelle connaissance. Et alors, il va s'y prendre petit à petit, avec une grande malignité, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le malin, il est quand même futé, c'est quand même un ange, qui reçoit ses lumières de Dieu. Et donc du coup, il va venir lui dire, oh, Mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Mais je vous ferai quand même remarquer que là, il lui fait avaler quelque chose que Ève est déjà. Elle est déjà comme des dieux. Elle est déjà créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous serez comme des dieux parce que vous connaîtrez le bien, mais Ève ne connaît et ne pratique que le bien. Et le mal, voilà où il voulait en venir. Et le mal. Et de telle sorte que Ève, à partir de ce moment-là, ne regarde plus la loi comme quelque chose qui lui apporte la libération. Hein, elle sait qu'elle vient de Dieu, qu'elle se reçoit de Dieu. Tout est bien, si je peux dire, dans le meilleur des mondes. Elle sait qu'elle se reçoit de Dieu. Et là, elle ne regarde plus les arbres comme la seigneurie de Dieu. Elle va les regarder en se disant, ah, comme un objet de tentation. Son regard a changé. Son regard commence déjà à se fausser. Elle n'a pas encore péché, mais elle a déjà entendu ça et elle commence à y acquiescer. Je vais devenir comme Dieu, mais elle l'est déjà. Je vais connaître le bien. Oui, mais elle ne connaît que ça et le mal. Voilà ce que visait le démon, c'est-à-dire de faire désobéir l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme lui, démon, a désobéi au règne de Dieu. Et il va y avoir le péché de Ève. Et nous voyons que du coup, Ève va devenir le serpent pour son époux. Je ne dis pas qu'elle se transforme en serpent, mais ce qu'elle a vécu là avec le démon, ben, elle va aller le transmettre à son époux. Alors on n'a pas le récit en lui-même, mais il s'est passé la même chose pour Adam. Et Adam aurait dû aussi résister. Pourquoi ? Mais parce que vous vous rendez compte, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu au sens où ils n'ont pas besoin d'aller au catéchisme. Il y a une connaturalité, ils connaissent Dieu. Ils le voient, ils l'entendent. Ils se reçoivent de lui, et voilà la désobéissance. Puisqu'on a parlé du temps, on pourrait s'interroger, mais combien de temps cela a-t-il duré, cette vie dans ce paradis d'Éden ? Ça, on ne le sait pas, la temporalité. Mais force est de constater, nous disent les pères, que ça a dû arriver bien vite. Pourquoi ? Parce que si le Créateur a déjà appelé Adam et Ève à croître et à se multiplier, ils n'ont pas encore fait d'enfant. Donc du coup, ça a peut-être pu se passer assez vite. Et ce péché, pourquoi nous concerne-t-il ? Eh bien parce qu'en Adam et en Ève, nous avons nos premiers parents. Et ce péché, nous allons nous le transmettre chacun par voie de génération. Je vais recevoir ce péché dans l'ordre de la chair. Le baptême va m'en laver. Et chaque fois que je commets des péchés, qu'est-ce que je fais ? J'actualise ce péché. Je l'actualise par mes actes, hein, actualisé, en posant des actes. Du coup, Dieu aurait pu se dire, ben non, c'est terminé, Adam et Ève meurent et c'est fini. Mais Dieu ne procède pas ainsi. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour, qu'il aime Adam, qu'il aime Ève. D'où le fait qu'en pédagogue, Dieu va punir. Quel est le salaire du péché ? La mort. Cela veut donc dire que avant le péché, Adam et Ève, eh bien, n'étaient pas mortels. Étaient-ils immortels ? Grande question que se posent les pères de l'Église. On laisse entendre qu'il aurait pu y avoir, c'est pas une théologie fiction, c'est juste des éléments qui nous permettent, voilà, de donner quelques éléments. Il y aurait sans doute eu, comme c'est le cas pour la bienheureuse Vierge Marie, une assomption pour Adam et Ève à partir d'un certain temps. Voilà qu'ils seraient entrés dans la vie éternelle parce qu'Adam et Ève sont quand même sous le régime de la foi dans le jardin d'Éden. Bien sûr, ils voient Dieu, ils le connaissent, mais il y a quand même le régime de la foi. Donc du coup, voilà un peu ce péché des origines sur lequel nous reviendrons, bien sûr, puisque le Seigneur va venir nous en sauver. Je vous dis qu'il y avait deux économies, l'économie originelle avant le péché et l'économie de la rédemption. Je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière, économie n'est pas à entendre au sens financier du terme, éco, nomos en grec, c'est la gestion de la maison. Hein, je vous ai dit aussi tout à l'heure que nous ne sommes pas simplement des êtres singuliers, mais que nous formons le genre humain, une communauté. Eh bien Dieu, il va venir sauver l'ensemble du genre humain. L'ensemble du genre humain qui est comme déjà contenu en Adam et en Ève. Donc Dieu va punir. Voilà que l'homme et la femme deviennent mortels. Et c'est donc pour nous sauver de la mort qu'il y aura le temps favorable de notre salut, le Seigneur qui meurt sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous sauver de la mort et pour nous délivrer du mal. De ce mal, non seulement que nous pratiquons en posant des actes mauvais, mais également de ce mal qui est le démon, et qui peut donner de mauvaises inspirations. On a eu de très belles lectures la semaine dernière de l'Épître aux Romains, avec des grandes belles déclarations de saint Paul. Il y a le bien que je voudrais faire, puis il y a le mal que je ne voudrais pas et que je fais quand même. C'est cette expérience en nous du péché originel. Depuis qu'il y a le péché, les parents et les professeurs s'en rendront compte, mais il est quand même beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. Il y a un vieux poème que cite Platon dans la République en disant « Devant la vertu, les dieux ont placé la sueur. » Ben oui, parce que c'est difficile de faire des actions vertueuses. C'est beaucoup plus facile de dire du mal de quelqu'un que de tenir sa langue. C'est beaucoup plus facile de répondre à un coup par un autre coup. Beaucoup plus facile que de demeurer pacifiste ou essayer de régler le problème autrement. Il y a quelque chose en nous qui vise toujours le bien. « Ah, il y a ce bien que je voudrais faire, nous dit saint Paul. Puis il y a ce mal que je ne voudrais pas et que je fais quand même. » Comme si c'était parfois plus fort que nous. Presque, n'exagérons pas. Mais ça, c'est en nous. C'est vraiment ce que l'auteur du livre de la Genèse veut nous faire sentir. Donc, l'économie originelle, avec Adam et Ève, avant le péché. Économie de la rédemption, Dieu qui vient maintenant nous sauver. Pourquoi je dis qu'il faut bien tenir les deux? Eh bien parce que parfois on serait tenté de penser, tenté le mot, que Dieu finalement, il a vécu un échec en créant Adam et Ève. Il a vécu un échec, il crée l'homme et la femme, et voilà qu'ils deviennent pécheurs, ils font le mal, ils sont chassés, donc du coup c'est Dieu a perdu. Mais ce n'est pas ainsi que procède Dieu. Dieu, il a un unique dessein. Je dis le mot dessein, D-E-2-S-E-I-N, pour bien montrer comme une éternité. Ce n'est pas un simple projet. Le dessein, ça a déjà eu un dessein, c'est déjà beaucoup plus, ça vise comme un peu plus l'éternité. Dieu a un dessein bienveillant, forcément guidé par le bien, et qui est indépendant de ces deux économies. Quel est ce grand projet de Dieu? Eh bien, Dieu, il veut faire de nous des fils. Voilà quel est le grand projet de Dieu. C'est ainsi que s'ouvre le catéchisme de l'Église catholique. Moi, j'ai commencé avec le mystère du temps. Je crois que c'est très important de bien se rappeler que Dieu est l'éternel, et que nous sommes dans le temps. Mais le catéchisme de l'Église catholique commence très justement en rappelant le dessein bienveillant de Dieu. Dieu, il veut faire de nous des fils. Il y avait l'économie originelle. Dieu, il avait déjà là une première façon de faire de nous des fils, mais voilà qu'il y a le péché. Et s'il y a le péché, c'est bien parce qu'il y a la liberté. Et si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a l'intelligence, d'accord, mais il y a aussi la liberté. Il y a la liberté. Je vous ai dit, Dieu est amour, mais la liberté est présupposée dans l'amour. Je prends l'exemple de Pierre qui aime Pierrette. Seulement Pierrette, elle n'aime pas Pierre. Mais plus Pierre forcera Pierrette à l'aimer, et bien plus il aura l'effet inverse. Moins Pierrette aimera Pierre. Et bien vous voyez, donc il y a l'amour, je vous avais dit, il est dans la nature de l'amour de se donner, Dieu se donne sans compter dans la création, mais attention, il crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, parce qu'il veut faire d'eux des fils. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas un échec pour Dieu. Parce que Dieu, de l'économie originelle, il va passer à l'économie de la rédemption. C'est sans doute plus compliqué, pas pour lui parce que rien n'est compliqué, mais du coup, tant pis, je vais quand même vous sauver. Du coup, je vais devoir me révéler dans le temps. Vous voyez, vous êtes chassé du jardin, maintenant vous êtes dans le monde un peu comme perdu. Mais ensuite, pour le peuple d'Israël, je vais vous donner une terre, une nation, bien définie, avec des frontières, tout ce qu'on n'aime pas aujourd'hui. Une terre qui sera la vôtre. Et puis, je vais vous donner la loi, parce que du coup, on ne se rappelle plus la loi. Donc du coup, Dieu, il va devoir extérioriser sa loi, faire l'alliance. Toute sa pédagogie va être aussi, on nous dit toujours dans la pédagogie, le propre c'est aussi de répéter. Ben oui, le pédagogue, il doit répéter des choses pour que ça finisse par rentrer, parce qu'on entend des fois une chose d'une certaine façon, et puis un autre jour on l'entend avec un autre écho, ça finit par rentrer. Bien Dieu, il va faire ça. Il va aussi répéter, c'est pourquoi il envoie les prophètes pour rappeler les termes de l'Alliance, pour dénoncer les infidélités du peuple à son endroit, parce qu'il va retomber dans l'idolâtrie. Etc., etc. Jusqu'au moment où Dieu estimera que c'est le temps favorable du salut, hein, et qu'il enverra l'archange Gabriel annoncer à la bienheureuse Vierge Marie que de toute éternité elle a été choisie, elle a été voulue, elle a été préparée pour devenir la mère de Dieu et accueillir ainsi le Verbe qui vient nous sauver. D'autres exemples de ce grand parcours que nous venons d'accomplir en peu de temps. Dans l'économie originelle, il y a déjà le Christ. On y viendra la semaine prochaine pour parler justement de la création comme une œuvre de la Sainte Trinité. Mais il y a déjà le Christ, mais alors on ne peut pas l'appeler le Christ dans l'économie originelle, parce que Christ, ça veut dire celui qui est envoyé par Dieu, sous-entendu pour venir nous sauver, le Messie en hébreu. Non, il y a ce que les pères appellent le gouvernement invisible du Verbe. Il n'a pas besoin d'être visible, le Verbe de Dieu. Il n'a pas besoin de s'incarner dans la chair. C'est une image. Quand on dit que Dieu vient se promener ainsi dans le jardin, ne l'imaginons pas avec des bottes et un joli chapeau de paille. « Bonjour mes enfants, je suis le Créateur. » C'est assez invisible, mais il y a véritablement cette vie de la grâce en eux. Il y a Dieu avec eux. « Le Seigneur est avec vous », dit l'archange à la bienheureuse Vierge Marie. On peut le dire d'Adam et Ève. Le Seigneur est là. Et nous, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là, mais on s'en rend beaucoup moins compte. Et le Verbe va devoir se rendre visible. Le gouvernement du Verbe va devoir se rendre visible. Il va se rendre visible par le don de la loi, par exemple. Et bien sûr, il va se rendre visible jusqu'à prendre chair de la bienheureuse Vierge Marie. Donc là, on a fait comme un sacré itinéraire, un peu rapide. Il faut méditer tout cela. Il faut surtout lire les Écritures que nous avons dans la liturgie chaque jour, parce que tous ces textes vont résonner de telle ou telle façon avec ce que vous avez en tête. Et voilà ce qu'on peut dire un peu pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous reparlerons bien sûr de la création et peut-être aussi du mystère trinitaire. Un seul désir de Dieu, retenez bien ça, Dieu veut faire de nous des fils. Il y a tout un tas d'épîtres de Saint Paul où Saint Paul nous rappelle ça. Dieu veut faire de nous des fils adoptifs par Jésus le Christ. Par l'Esprit Saint, on n'appelle plus simplement Dieu Dieu, on l'appelle Abba, Père. C'est bien parce qu'il veut nous adopter. C'est la grâce du baptême, où nous sommes devenus enfants de Dieu. Et parce qu'on est enfants de Dieu, on devient héritier de Dieu, héritier de chacune de ses promesses qui sont celles de la vie éternelle.